Réplique, le prix du silence, avec Alain Corbin et Jean-Michel Delaconté. Il y a quelques années, rentrant à Paris après la visite d'une exposition du peintre Eugène Leroy, je traversais Arras avec ma femme et un couple d'amis. Nous décidâmes de nous arrêter pour dîner dans une brasserie de la ville. Il était tôt, le restaurant que nous choisîmes était encore vide. Comme nous étions les seuls clients, nous demandâmes au serveur, qui était aussi le propriétaire, d'arrêter la musique d'ambiance. « Pas question », nous répondit-il vertement. Stupéfait, nous décidâmes, après une brève consultation, de partir. « C'est mieux comme ça », nous dit notre hôte éphémère. De cette banale mésaventure, je concluais tristement que la bataille contre le bruit était perdue, qu'entre le vombrissement des voitures, le ronflement des éoliennes, le babil incessant des téléphones portables et le fond musical de tous les lieux publics, on ne serait plus jamais tranquille nulle part. Mais peut-être avais-je tort. Peut-être un peu d'espoir est-il encore permis. Les ennemis du bruit, en effet, n'ont pas dit leur dernier mot. J'en veux pour preuve le livre de Jean-Michel Delaconté, Petit éloge des amoureux du silence, et celui d'Alain Corbin, Histoire du silence. Histoire. Partons de ce mot. Voulez-vous dire, Alain Corbin, que toutes les sociétés, toutes les cultures, toutes les époques n'ont pas le même rapport au silence, et dans ce cas, quelle est la spécificité de la nôtre, Alain Corbin ?
Exactement, c'est ce qui m'a toujours frappé, ce qui m'a frappé donc et conduit à écrire ce livre, c'est qu'il y a une histoire du silence, que chaque période a une manière d'en apprécier les textures, la profondeur, les trésors, si vous voulez, de s'y réfugier éventuellement. On ne se réfugie pas au XVIIe siècle dans le silence, pour les mêmes raisons qu'au 19e ou qu'à la fin du 19e siècle, à Huysmans, par exemple. Donc, je suis pas compétent en ce qui concerne la sociologie actuelle ou l'ethnologie actuelle, mais il suffit de vivre pour s'apercevoir effectivement que, comme le pense Jean-Michel Delaconté, le silence agonise parce que il y a du bruit partout. Mais attention, le silence n'est pas seulement absence de bruit. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui, puisque vous faisiez allusion à ceux qui luttent. On recherche l'absence de bruit, je dirais, pour être tranquille, pas au-delà, mais pas tellement pour toutes les richesses, j'y reviens, les trésors que permet le silence. Alors, évidemment, vous l'avez énuméré, le bruit des téléphones portables, le bruit de la musique d'ambiance, le bruit de l'aéronautique, enfin, bref, l'énumération serait très longue, fait que l'univers sonore, le paysage sonore, ce qui est autre chose, est très différent. Mais le plus grave, me semble-t-il, c'est que le silence ennuie. Que le silence a perdu ses mérites, sa profondeur et ses trésors, il ennuie et il fait peur. C'est très caractéristique de l'attitude des enfants qui se réfugient dans le bruit parce que, contrairement à leurs grands-parents, ils ne goûtent plus les rêves, l'imaginaire que procurait le silence.
Jean-Michel Delaconté. Donc, justement, sur cette question, quelle est la spécificité de notre époque dans son rapport au silence ?
Je crois que ce que vient de dire Alain Corbin-Gilles, je crois qu'aujourd'hui, on recherche le silence, non pas tellement pour se trouver soi-même, mais plutôt pour fuir les autres. C'est un silence d'éloignement, plutôt d'évitement, me semble-t-il, plutôt que de quête intérieure. On s'éloigne d'eux, on se protège. D'une pression extérieure qui est ressentie comme soit parce que elle est effectivement douloureuse. Il y a beaucoup de gens qui oublient que le bruit, parce que moi c'est plutôt au bruit que je me suis intéressé, si je puis dire, qu'au silence lui-même, quoi que ce soit naturellement lié. Mais le bruit est une douleur et donc le silence est une réparation dans ce cadre-là. Mais l'histoire du silence montre que, bien évidemment, il y a un statut différent du silence et un statut différent du bruit. Donc je dirais simplement, si vous voulez, d'un mot, c'est que, vous dites Alain Corbin très justement que l'intensité du bruit aujourd'hui est sans doute moindre que dans les temps passés. Mais en revanche, il est omniprésent. C'est une capture, un emprisonnement presque permanent. Et c'est ça que je trouve terrifiant. D'ailleurs, on ne peut pas y échapper, et on cherche à échapper, je dirais maladroitement, c'est une sorte de fuite.
Mais
comme
pourquoi
ça.
Dites-vous, Jean-Michel de la Comté, qu'aujourd'hui on ne cherche qu'à fuir le bruit? Parce qu'après tout, si on le fuit, c'est aussi peut-être pour des raisons positives. C'est parce qu'on a besoin du silence pour, je vais dire, utiliser effectivement une expression désuète. Mais c'est pas parce que l'expression est désuète que le besoin n'est pas présent pour la vie de l'âme. Il me semble que cette exigence est là chez ceux-là même aujourd'hui qui sont allergiques au bruit et qui souffrent de ces méfaits. Jean-Michel Delacomte.
Oui, bien sûr que ça existe. Il y a aussi une quête, bien sûr, qu'il y a une quête de, à travers le silence, une quête du repos de l'âme et même de la fertilité de l'âme à travers la lecture, l'écriture, ce qu'on veut, la réflexion, tout simplement. Bien sûr qu'il y a ça, heureusement. J'espère que ça durera encore longtemps, d'ailleurs, cette tendance-là.
Alain Corbin.
Une des choses qui me frappe à ce propos, c'est la diversité des quêtes, des reliques de quêtes, si vous voulez. Il y a encore des moines, où il y a des moines démoniales qui, au fond, vivent un silence qui n'est pas radicalement différent du silence de Jean de la Croix ou du silence d'Ignace de Loyola. Il y a des randonneurs qui quêtent un silence qui est proche du silence des romantiques, de celui que Wanderer allemand que recherchait. Il y a encore des amoureux qui se réfugient à deux dans un silence, si vous voulez, tel que Maeterlinck, par exemple, prônait. Donc il y a, chez les résistants dont on parlait, il y a encore une multiplicité de quêtes, sans parler de tous ceux qui se placent dans la perspective des philosophies orientales ou des religions orientales, des bouddhistes. Il y a une grande mode des gourous aujourd'hui qui vous apprennent à méditer. Donc, c'est cette multiplicité, en quelque sorte, des reliquats de quêtes qui contraste avec la difficulté d'apprécier, d'une part, le silence et de le trouver.
Cette difficulté de le trouver, à quoi tient-elle ? Tient-elle simplement à l'extension de la technique qui, comme le rappelle David Le Breton dans son livre de silence, est allée de pair avec la pénétration accrue du bruit dans la vie quotidienne et une impuissance grandissante à en contrôler les excès ? Est-ce de cela que nous souffrons ou y a-t-il aussi autre chose pour expliquer cette invasion du bruit dans nos sociétés?
Il y a déjà, historiquement, si je puis dire, c'est assez récent d'ailleurs, c'est civilisation du moteur, bien évidemment. Il y a divers bruits, en l'occurrence. Il y a les bruits contre lesquels, d'ailleurs, les pouvoirs publics luttent, et le moteur en fait partie, le moteur d'avion en particulier, le moteur des voitures, bon. Et puis il y a un autre bruit qui est celui, ce qu'on appelle d'ailleurs le bruit de voisinage, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous torture, tout ce qui nous empêche d'être à soi et qui nous envahit sans cesse, cette espèce de fauve là du bruit comme ça. Et puis il y a ce que vous venez de dire en effet, c'est-à-dire ce qui est lié à l'électronique aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui ressortit à la musique amplifiée, plus ou moins amplifiée d'ailleurs, et qu'on trouve partout. Que vous alliez dans un supermarché, dans un café, c'était l'exemple d'Arras. Et ça, c'est l'omniprésence que moi je trouve torturante pour ma part. On ne joue pas seul d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, l'omniprésence de cette espèce de bruit de fond comme ça. Ce bruit de fond électronique qui est prétendument musical et qui est partout. Et qui nous ronge, pour ceux qui le supportent mal.
Ah oui, d'ailleurs, vous avez des mots très forts sur cette omniprésence de la musique d'ambiance, ce bain de vapeur pour ramollir l'attention de la clientèle, la rendre perméable aux attraits de l'achat. C'est comme si, dites-vous, le magasin tentait de m'attraper dans une épuisette. Et c'est ça, vrai. D'ailleurs, ça vous fait quitter le magasin comme moi j'ai
Absolument.
Quitté la brasserie d'Arras. Absolument. Et vous citez le poète Jacques Reda. Et justement, sur cette musique d'ambiance dans les magasins, on vous y berce d'un fond sonore à la fadeur d'orgeat, euphorisant et même anesthésique, et j'aurais craint qu'il ne me submergeât si c'eût été vraiment de la musique, et non ce flot de Mozart à goujat qui rend un peu métaphysique la fièvre du grossier consommateur.
Absolument.
Et ouais. en effet, ce qui est tout à fait saisissant aujourd'hui, c'est cette omniprésence de quelque chose qu'on appelle musique, mais qui ne peut plus être de la musique, puisque ce n'est rien d'autre qu'un flux sonore. Donc, la technique le permet, mais on peut aussi poser la question de savoir pourquoi le besoin s'en fait-il sentir. Vous citez aussi un voyage que vous avez fait en car, je crois, entre Zagreb et Dubrovnik,
tout à fait,
avec les haut-parleurs, la radio qui Absolument. Était mise à plein tube, tout au long de votre périple. Vous citez également le bruit qu'il y a au massif du Mont-Blanc, avec ses hélicoptères à flux tendu, ses vols panoramiques des avions de plaisance, ses exercices d'atterrissage sur les glaciers, ses ULM dans les vallées, ses randonnées en 4x4, etc. Mais vous parlez également, et enfin, des agences de tourisme qui organisent la visite des châteaux de la Loire en hélicoptère, photographiés d'en haut, Chenonceau, Chambord, Azay le Rideau en Boise, résonnent des pales qui tournent au-dessus d'eux. Donc voilà, un bruit partout, mais qui est non seulement toléré, mais même d'une certaine manière demandé.
Recherché, absolument.
Recherché. Pourquoi rechercher alors, Jean-Michel de la Comté, ensuite Alain Corbin?
Écoutez, moi, c'est une pure hypothèse en l'occurrence. Vous parliez de l'âme, il me semble que le silence s'adresse à l'âme. Et je pense que le bruit s'adresse au corps. Et j'ai du mal à me défaire de l'idée qu'on est une époque où une majoration du corps, la question du corps se pose, d'ailleurs ça se voit en littérature notamment, mais pas seulement, en médecine aussi. D'ailleurs la médecine du travail est celle qui s'intéresse au bruit. Et en revanche, me semble-t-il, et là on rejoint plutôt l'histoire du silence, il me semble que c'est beaucoup plus lié à la question de l'âme. Or, aujourd'hui, il me semble, hélas, que l'âme a pas mal disparu de nos horizons, alors que le bruit est toujours là, partout. Et il me semble qu'il y a une relation peut-être à approfondir entre ces deux aspects, ces deux registres-là. L'âme, le silence, le bruit, le corps.
C'est tout à fait, l'essentiel, ça. Parce que, n'oublions pas qu'il existe une histoire de la sensibilité, une histoire de la tolérance au bruit. Je ne pense pas, pour ma part, que le bruit à Paris, par exemple, soit plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était au milieu du 19e siècle ou même au début du 19e siècle ou au 18e siècle. Pensez aux cris de Paris, à tous ces artisans qui tapaient sur
Boileau.
Oui, on s'en remonte à Boileau.
Eh oui, c'est les embarras de Paris.
Les embarras de Paris, les charrettes, le bruit de sur les pavés, les bruits des animaux. Il y a des chevaux, mais il y a des vaches dans Paris à ce moment-là. Il y a des poules, il y a des cochons, on égorge. Bon, bref. Mais ce n'était pas considéré comme intolérable, me semble-t-il, avant le milieu. Un grand tournant, c'est le milieu du 19e siècle où on commence à se plaindre. Le photographe Nadar a publié tout un livre sur l'ennui que lui causait le tintamarre des cloches au début. Donc, il y a une histoire de la tolérance et une histoire de la tolérance au bruit. Et on est à l'aboutissement. Enfin, je veux dire, on est fils, en quelque sorte, de cette évolution de la tolérance.
Alors, c'est extrêmement paradoxal, ce que vous dites. C'est comme si il y avait dans nos sociétés une intolérance grandissante au bruit, mais nous avons constaté ensemble qu'en même temps, le bruit était aujourd'hui omniprésent et qu'il était de plus en plus difficile d'y échapper. Et alors là, j'ai besoin que vous m'aidiez à élucider ce paradoxe, Jean-Michel de la Comté.
Il me semble que c'est la grande question, là, je disais du corps, on disait à l'instant, mais je crois que c'est aussi, tout bonnement, c'est pas du tout tout bonnement, parce que c'est une question compliquée, c'est la question de l'individualisme et du rapport à autrui. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'il y a une façon de... Le bruit, c'est comment dire, c'est l'intervention de l'autre, avec un grand A, dans mon univers. Et alors, il y a un drôle de paradoxe aujourd'hui, je trouve. C'est qu'en même temps, il y a un besoin il y a une espèce d'instinct grégaire qui se retrouve dans le mouvement des foules, dans les stades, dans tout ça. Bon, il y a un besoin d'être avec l'autre, avec un petit a. Et puis, il y a un refus de l'autre, une défiance, une difficulté d'être avec l'autre, avec un grand a. C'est-à-dire que on peut se représenter très bien ce que ça veut dire. Le bruit et les odeurs de Jacques Chirac à une époque, on voit très bien ce que ça peut vouloir dire. Hein, l'étranger, mais pas l'étranger, je veux dire, celui qui vient d'ailleurs, celui qui nous est étranger fondamentalement. Et je pense qu'il y a là une dialectique, mais une coexistence entre un besoin de foule, donc la musique partout, il faut toujours connecter. Il faut toujours être avec autrui. Et en même temps, il y a un individualisme qu'on connaît bien et qui exige qu'on soit libéré de cette emprise. Et ça se joue, me semble-t-il, beaucoup dans cette tension-là.
Oui, mais vous dites un individu, c'est pas l'emprise de l'autre. Le bruit, c'est pas l'autre, c'est la nuisance dont certains autres peuvent se rendre coupables. Donc on peut être ouvert à l'altérité, curieux de la différence et en même temps totalement allergique à ce genre d'invasion parce qu'elle vous rend la vie absolument impossible. Mais j'en reviens à ma question. Comment se fait-il que puisse coexister aujourd'hui, Alain Corbin, cette intolérance grandissante au bruit, puisque dites-vous, dans les siècles précédents, on s'en accommodait, et en même temps, cette invasion du bruit, dont j'ai donné quelques exemples tout à l'heure, ce fait effectivement que les lieux silencieux sont de plus en plus rares et le silence tend à être identifié non plus à l'âme mais à la mort.
Oui, ça c'est très sûr. Ah oui. Mais en ce qui concerne le social, je reviens à ce qui vient d'être dit, il ne faut pas oublier qu'il y avait un bruit qui a disparu, qui était un bruit de recherche en quelque sorte de communication qui n'était pas celui des portables. Jörg Simmel fait remarquer que c'est à la fin du 19e siècle qu'on commence à interdire de s'interpeller de loin dans la rue. C'est extrêmement important, ça, me semble-t-il. Et dans les wagons, quand j'étais jeune, dans le compartiment, il fallait absolument parler à ceux qui étaient là. Sinon, c'était une impolitesse grave. Aujourd'hui, dans un TGV, on ne supporte pas ça. On ne supporte même pas qu'il y ait un petit bruit à côté. Donc, il y a cela, et d'autre part, il y a un élément qu'on n'a peut-être pas souligné, c'est l'intermittence du sentiment d'inconfort, l'intermittence au cours même de la journée de l'intolérance au bruit. Je prendrai un exemple. Celui qui se plaint d'être dérangé dans un avion, un jeune, hein, ou dans un train, supportera le soir dans une boîte une intensité sonore qui était inconnue dans l'histoire. Et donc, tout se passe comme s'il y avait il avait changé d'onde, en quelque sorte, dans la journée. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste du contemporain. Mais il y a des spécialistes de laboratoire. Le monsieur Augoyard, dans le Cresson de Grenoble, étudie beaucoup ces phénomènes-là d'une manière scientifique.
Alors, en même temps, il me semble que pour expliquer l'augmentation, malgré tout, des nuisances sonores, on ne peut pas simplement en rester à une réflexion sur la technique et les moteurs, mais il faut aussi envisager la révolution des mœurs, c'est-à-dire cette promotion de la spontanéité en valeur suprême. Camus disait, et ça a été valable longtemps quand même, « Un homme, ça s'empêche », c'était la maxime de son père, « Un homme, ça s'empêche », aujourd'hui, un homme, ça s'exhibe, un homme, ça s'exprime, un enfant, ça s'exprime. Donc, dès lors qu'un enfant, ça s'exprime, il faut qu'il s'épanouisse. Et certains vous disent que si les classes sont bruyantes, c'est un témoignage de leur vitalité. Une classe silencieuse, écoutant la parole du maître, c'est une classe qui s'ennuie, et non une classe qui s'épanouit. Ce qui vaut pour les enfants vaut aussi pour les animaux domestiques. Certains maîtres ne les dressent pas, puisqu'eux-mêmes, il faut qu'ils s'expriment. Et donc, puisqu'un chien, ça aboie, les chiens aboient. Et l'aboiement des chiens, c'est un bruit, si vous voulez, effectivement, si j'ose dire, naturel, et donc pluriséculaire. Mais peut-être aujourd'hui, change-t-il de valeur, dès lors précisément qu'il y a de plus en plus de maîtres à accepter la nuisance qu'il provoque, à même l'accompagner et à se révolter contre ceux qui, parmi les voisins, en souffrent et le leur disent. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème des rapports du bruit et du silence aujourd'hui, Jean-Michel de la Comté?
Très certainement. D'ailleurs, c'est pour ça que le bruit est ressenti comme une injure. Et en effet, cette spontanéité dont vous parlez, moi, ça m'est difficile de ne pas me dire que ça a un rapport, je le disais tout à l'heure, mais que ça a la célébration du corps avec tout ce que ça signifie. C'est-à-dire cette dilatation de l'espace personnel, c'est la santé, c'est le bien, c'est une certaine façon le bien. Donc le chien qui aboie, il est libre, une certaine idée de la liberté peut-être aussi. Et
oui,
puis
liberté, hein, spontanéité.
Spontanéité, oui. Et puis vous connaissez la formule, moi, qui m'irrite au plus haut point, c'est j'ai le droit, je suis chez moi. Cette notion du chez-soi, comme ça, qui, en même temps, on fait partie d'un ensemble, mais d'une ville, disons, ou d'un village, peu importe, mais en même temps, on est séparé du monde. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un rapport très... Peut-être, c'est aussi l'histoire du rapport à l'autre, enfin, vaste histoire, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a quelque chose qui change. Et dans la spontanéité, là, il y a un rapport à la... Je ne sais pas si ça va être très clair ce que je vais dire, à la vérité de soi, à la vérité du chien, même, lui-même. Hein, il est adéquat à lui-même, c'est normal, il est libre. Bon, c'est très difficile à supporter dès lors qu'on le ressent comme une nuisance. Il faut jamais oublier quelque chose quand même, c'est que le bruit, pour ceux qui ne le supportent pas, j'insiste là parce que souvent c'est négligé, c'est une douleur. C'est une douleur. Et c'est une douleur qui, je dirais presque idéologique, parce qu'on le subit plus ou moins bien, mais c'est aussi une douleur physique, physiologique. Et alors le chien, par exemple, dont vous parlez à la fin de la route, mais c'est terrible, c'est l'un des bruits les plus violents qui soit. Dans mon petit livre, je dis, je crois que c'est 110 décibels, 117 décibels. Hein, 747 au décollage, c'est 130, vous vous rendez compte? Vous avez ça dans les oreilles? Oui, comment on peut? Et aujourd'hui, on ne l'accepte plus parce qu'on a le sentiment qu'on est dépossédé de nous-mêmes. Et ce qui est vrai, d'ailleurs. Avant, ça marchait mieux peut-être, parce que, je risque l'hypothèse, mais vous le savez beaucoup mieux que moi, Alain Corbin, c'est, on était élevé dans une communauté beaucoup plus générale, très tôt. La vie communautaire était dans les villages, etc., était beaucoup plus marquée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est différent.
Oui, cela dit, le bruit du chien a été un des premiers bruits, avec celui des cloches, à susciter des combats.
Oui.
En Suisse, au milieu du 19e siècle, il y a des ligues contre le bruit des aboiements de chiens. Donc, c'est important.
Oui.
Mais l'histoire n'est pas linéaire. Je voudrais compliquer un peu les choses. Au moment de l'épanouissement de la civilisation des mœurs, que Norbert Elias a développé la société de cour, etc., il y a une contention des normes qui, à ce moment-là, s'est traduite par un effacement des bruits, et en particulier des bruits du corps dont vous parliez. Il ne fallait plus rôter, il ne fallait plus péter, il ne fallait plus montrer du bruit en mangeant, etc. Donc il y a une histoire assez heurtée finalement, faite d'épaves de culture, d'aller-retour, évidemment conditionnée par la technique, par l'objectivité de la nature des bruits. En ce qui concerne la campagne, il y avait quelque chose de très différent d'aujourd'hui, qui fait que la campagne est beaucoup plus bruyante et beaucoup plus agaçante, au fond, bien, bien souvent aujourd'hui, alors que le paysage sonore de la campagne, encore au 19e siècle, était un paysage sonore fait d'intermittence. Il y avait la sonnerie des Angélus, on l'attendait, elle était utile, elle ne dérangeait pas du tout. Il y avait le bruit du retour du troupeau, avec ses clochettes, vous voyez. Donc, et au milieu de tout ça, des grandes plages de silence. Il y avait des chants de labour, il y avait les bruits de commandement aux animaux, mais le reste était fait de plages de silence, ce qui n'est plus le cas à la campagne. Donc, voilà encore un événement
technique. Et vous dites qu'il y a eu, au XIXe siècle, une révolte contre les aboiements de chiens. Schopenhauer a écrit des pages extraordinaires sur ce thème. Et aujourd'hui, une des difficultés de la vie est celle-ci. Souvent, on quitte la ville pour échapper au bruit et on rencontre, hors de la ville, pas forcément dans la campagne, mais dans le périurbain, des bruits insupportables. Les jappements de chiens, et là je renvoie au dernier volume du journal de Renaud Camus, La Tour. Il a une difficulté extrême avec sa voisine, Madame Lecause. Un chien qui lui rend la vie impossible et une voisine qui se vante précisément de le laisser aboyer. Mais il y a aussi les tondeuses dont vous parlez aussi, les tondeuses à gazon, etc. Donc on fuit le bruit en quittant la ville et on retrouve le bruit comme si effectivement il avait tout envahi de nos jours. Jean-Michel de la Comté.
Oui, et je crois que là, finalement, peut-être que c'est la ville, comme la banlieue, d'ailleurs c'est le monde qui devient banlieue, la ville qui est partout, à laquelle on cherche à échapper, et de la même manière que la nuit n'existe plus, enfin la nuit céleste n'existe plus. Je pense que tout cela est assez fortement lié. Échapper, quitter la ville et la retrouver en pire. C'est comme ça que les gens qui vont à la campagne, souvent, ils se disent, je vais retrouver du repos. Et c'est encore pire que ce qu'ils ont dans la ville elle-même. Et cette extension infinie de la ville, parce que c'est le mouvement du monde aujourd'hui, qui rétrécit au maximum les espaces de nature, au sens où vous le disiez d'ailleurs, à savoir les espaces de calme possibles. Eh bien, le bruit, aujourd'hui, me semble-t-il, c'est la menace permanente. Où qu'on aille. Et la ville aussi est une menace permanente. Et on fuit quelque chose, on essaye d'échapper à ça, et puis où qu'on aille, eh ben on retombe dedans. On retombe dans les raies, dans les liens de la ville.
Alors, Alain Corbin, vous citez un livre extraordinaire dans votre propre ouvrage de Max Picard, Le monde du silence, théologien suisse, Max Picard, livre publié dans les années 50 au PUF, et dont j'espère la réédition. Max Picard est un penseur tout à fait singulier et par certains côtés génial. Mais dès 1953, il écrivait ceci. Il semble que le dernier reste de silence existant encore doive être refoulé, qu'ordre ait été donné d'arrêter le silence dans chaque homme et dans chaque maison, de le traiter en ennemi et d'anéantir. Les avions battent le ciel à la recherche du silence, qui campe derrière les nuages. Les rafales des hélices sont comme des coups contre le silence. Et je parlais tout à l'heure du ronflement des éoliennes.
Bon exemple.
Le silence, on a l'impression qu'il est traqué un peu partout aujourd'hui.
Oui, mais même Max Picard recherche les lieux résiduels, en quelque sorte, de silence. Et il souligne celui des cathédrales. D'ailleurs, c'est une expression commune de parler de silence de cathédrale. Et Claudel pense que la cathédrale est en quelque sorte un édifice de silence, un édifice qui a été construit pour le silence, et que les vitraux ont une parole, comme les peintures du XVIIe siècle, ont une parole qui est une parole de silence. Il n'y a pas que les cathédrales, que les églises romanes, etc., qui plaisaient tant à Huysmans, qui lui aussi cherchait à se réfugier. Donc, la notion de refuge est aussi importante contre le silence. Dites qu'on ne peut pas se réfugier à la campagne, mais il y reste des lieux de silence. Au début du XXe siècle, donc, outre les cathédrales, il y avait les bibliothèques. Maintenant, je ne sais pas où on en est, dans les médiathèques, justement. Mais ça, ce n'est pas bon. Je ne connais pas. Mais les bibliothèques étaient encore, en plus, évidemment, des couvents, etc. Il reste des lieux de silence. Je me souviens avoir traversé à pied le Massif central dans les années 70, dans les deux sens. Et dans ces 1000 kilomètres, je vous assure que vous pouvez traverser encore, à ce moment-là, du moins, le Gévaudan, par exemple, ou les courses, pendant des dizaines et dizaines de kilomètres, sans rencontrer âme qui vive et qui vous trouble. Je pense qu'il y a encore des réserves.
Si ça subsiste encore un peu.
Une sorte de réserve.
Ça s'évanouit.
Des réserves, oui, mais elles-mêmes menacées. George Steiner, dans son livre « Dans le château de Barbe Bleue », note pour une redéfinition de la culture, dit ceci « Le bureau où j'écris ce texte est situé dans les bâtiments d'une grande université américaine. » Ce pourrait être une bibliothèque, justement. « Les murs vibrent doucement au rythme d'une musique déversée par plusieurs haut-parleurs, dont l'un tout proche. Les murs vibrent à l'oreille ou au toucher environ 18 heures par jour, parfois 24. Ça n'arrête jamais. » Peu importe que ce soit de la pop musique, de la folk musique ou du rock. Ce qui compte, c'est cette vibration envahissante du matin au soir et tard dans la nuit, brouillée par le doux bourdonnement des timbres électroniques. Toute une portion de l'humanité, âgée de 13 à 25 ans, dirons-nous, passe sa vie baignée dans ce vibrato lancinant. Le martèlement du rock et du pop se referme comme une coquille. Lire, écrire, converser, étudier, ces activités autrefois enveloppées de silence, s'inscrivent maintenant dans un champ de stridence. La nouvelle sphère du son est sans limite, dit-il. Et il ajoute, pour finir, tout autour du globe, une culture du son semble rejeter l'antique autorité de l'ordre verbal. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Michel Delacantine ?
Parce que ça m'est difficile de, enfin, ça me semble difficile de pas faire des liens quand même entre le sort du livre de culture, la haute culture, du latin par exemple, son extinction lente, et le sort réservé au silence. Parce que le bruit, je crois que c'est... On parle souvent, et à juste titre, du présentisme. Le bruit, c'est le présent. Presque un présent pur. On est dedans. On est complètement dedans. Et dans le même temps, je crois que quand on souffre de ce dont parle Steiner, d'ailleurs, cette impossibilité à se mettre soi-même dans une sorte de verticalité temporelle, c'est-à-dire d'élargissement de soi, c'est-à-dire de l'histoire, par exemple, c'est-à-dire le temps de la lecture, qui demande à ce qu'on ne soit pas dans le présent du bruit. Et donc, il y a là, je crois, un enjeu très lourd, que je dirais pour ma part, civilisationnel, c'est soit le livre, soit le bruit, pour aller vite. Pour aller vite.
Mais est-ce qu'on peut pas dire aussi soit la musique ininterrompue, la musique d'ambiance, parce que la musique aussi est menacée.
Bien sûr.
Je viens de lire Steiner, là je vais vous lire un extrait du roman de Milan Kundera, L'ignorance. La radio fut le petit ruisseau par lequel tout commença. Vinrent ensuite d'autres moyens techniques pour recopier, multiplier, augmenter le son, et le ruisseau devint un immense fleuve. Si jadis on écoutait la musique par amour de la musique, aujourd'hui elle hurle partout et toujours, sans se demander si on a envie de l'écouter. Elle hurle dans les haut-parleurs, dans les voitures, dans les restaurants, dans les ascenseurs, dans les rues, dans les salles d'attente, dans les salles de gymnastique, dans les oreilles bouchées des Walkmen, musique réécrite, réinstrumentée, raccourcie, écartelée, des fragments de rock, de jazz, d'opéra, flot où tout s'entremêle sans qu'on sache qui est le compositeur, la musique devenue bruit est anonyme, sans qu'on distingue le début ou la fin, la musique devenue bruit ne connaît pas de forme. L'eau sale de la musique, où la musique se meurt. Et la musique se meurt, le livre peut-être se meurt.
La culture, telle qu'on l'entend,
la culture de manière plus générale.
C'est ça.
Oui, mais on n'a pas évoqué dans cette perspective l'idée que toute parole émerge du silence. Ça me paraît absolument essentiel. De la même façon, toute écriture émerge du silence. La page blanche, elle va être remplie par l'émergence d'un silence. Ça a aussi beaucoup dit. Autrement dit, à partir du moment où il n'y a pas de silence, il y a appauvrissement. Je vous rejoins tout à fait dans cette perspective, qui est vraie aussi, sans doute, dans le domaine des arts plastiques, par exemple. Au XVIIe siècle, c'est une peinture de silence que nous présentent les grands peintres de l'époque. Marc Fumaroli a beaucoup développé cela. Quand vous considérez, par exemple, le retour de l'enfant prodigue de Rembrandt, c'est un bloc de deux silences. On ne peut pas l'interpréter autrement. Or, ceux qui, aujourd'hui, fréquentent les expositions n'ont pas ce regard. Qu'avait le spectateur du XVIIe siècle regardant un Latour, et ce dialogue de silence, en quelque sorte, entre lui et le tableau. Ça me paraît aussi quelque chose d'essentiel dans notre monde que cette déperdition de l'écoute du silence dans les arts plastiques. Voilà.
D'autant plus que les musées sont de moins en moins silencieux aussi.
Oui, hein, les expositions, on ne peut pas.
Mais oui, parce qu'il faut qu'il y ait toujours plus de public, toujours plus de monde, etc. Et donc, ce sont des, la concentration, le recueillement sont rendus toujours plus difficiles. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, c'était... J'opinais à ce qui était dit sur... effectivement, sur, c'était, je pensais simplement qu'il y a peut-être une relation entre la minoration de l'œil qui regarde et une majoration d'un monde d'oreilles qui n'écoute pas.
Je citais Max Picard et je voudrais le citer à nouveau à propos d'un média qui me concerne particulièrement et qui nous concerne tous les trois ici. Il y a un chapitre dans son livre, Le monde du silence, sur la radio. Et Kundera dit que tout a commencé avec la radio. La rumeur n'est plus aujourd'hui une petite partie seulement du monde. Un monde est édifié sur elle, le monde de la radio. La radio est un ensemble de machines pour la production de la pure rumeur. Il n'importe presque plus du tout qu'il y ait ou non quelque chose en elle. Il importe seulement que naisse du bruit. Les paroles sont broyées dans la radio, elles sont transformées comme une masse informe. Toute cette rumeur dans le monde de la radio est continuellement en route, c'est un continuel flux et reflux, venant d'on ne sait où, allant on ne sait où. Rien n'est réalité présente, passé, présent et avenir sont mélangés en une seule rumeur qui s'étale. Aussi la radio et sa rumeur détruisent-elles l'homme? À celui qui devrait être en face des objets un être présent, la radio et sa rumeur enlèvent la qualité de présent, dans une sorte de flux continu. Alors que pensez-vous de cette analyse et y a-t-il des moyens pour la radio d'échapper à ce processus si bien décrit par Max Picard ? Sauvez-moi.
Si sauvez-moi, oui. Ça me rappelle d'ailleurs ce que disait Kundera sur, sur le bruit tel qu'il l'a connu et la propagande.
Oui.
Et d'autres ont pu signaler aussi le rapport entre, là vous parliez de la musique, et les chants guerriers, c'est-à-dire ce qui, une espèce de débordement de soi comme ça. Bon, pour revenir sur la radio, moi je pense que oui, bien sûr que c'est une vraie question. La radio, la télé, tout ce qui est, ce qu'on disait au début, tout ce qui est relatif à l'électronique est en train d'induire un changement de civilisation. Reste des oasis de radio.
Oui, et puis on peut réintroduire de la discontinuité dans ce flux, voilà. en choisissant ces émissions, voilà. En les écoutant au moment où on le souhaite. Mais alors, comment réagissez-vous, Alain
Corbin ? On pourrait faire une minute de silence, bien entendu. Mais l'histoire de la minute de silence, ouais, si est quelque chose de tout à fait intéressant. Ça nous vient du Portugal, au début du XXe siècle. Le Parlement portugais, pour célébrer je ne sais quel accord ou indépendance par rapport au Brésil et réciproquement, a fait, tenez-vous bien, une demi-heure de silence. Donc on pouvait à cette époque, au début du XXe siècle, dans une enceinte de ce type, faire une demi-heure de silence. Ensuite, ça a été imposé dans le cadre français au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mais, comme je l'ai souvent ressenti, cette minute de silence aujourd'hui devient difficilement tolérable, je veux dire.
Elle est très raccourcie, en plus.
Hein. Elle est raccourcie. Et il y a une sorte de rumeur dans un stade, par exemple. Elle est respectée, oui et non. On sent une impatience. Et je l'ai avoué à plusieurs reprises, je confesse que personnellement, je me sens gagné par cette impatience aussi d'une minute de silence avant le début d'un match, parce que cette valeur du silence n'est pas comprise, parce qu'elle impliquerait le recueillement pour, en quelque sorte, évoquer en soi le disparu que l'on célèbre, mais ce n'est pas vraiment une minute de silence. Et il y a aussi, dans cette perspective, L'idée qu'on ne peut faire vraiment silence, un silence fructueux, un silence de trésor, que dans une référence au temps, au passé de l'histoire du silence, si vous voulez. C'est-à-dire que ces grands mystiques, mais avant eux, les pères du désert, qui sont des ancêtres dans notre civilisation du silence. Je ne suis pas compétent pour en parler, mais ça tracassait quelqu'un comme Flaubert, hein, bien entendu. Cette référence au père du désert et ses plots, en quelque sorte, intermédiaires, que sont Saint-Bernard, que sont les mystiques, ensuite du XVIIe et tout, que sont les symbolistes à la fin du XIXe siècle, tout ça étire, en quelque sorte, une histoire du silence. Et cet étirement, quand on en prend conscience, est fructueux, parce qu'il permet cette quête multiple des trésors de silence et de ses textures.
Oui, quête multiple, mais qu'il est, semble-t-il, selon vous, difficile à faire entendre, puisque vous dites vous-même que la minute de silence suscite aujourd'hui une impatience très vive, et que elle est de moins en moins respectée.
Donc, oui, parce qu'il n'y a pas eu d'éducation, vous l'avez évoqué au début de l'émission, de l'éducation du silence, puisque ce sont des valeurs autres, au contraire, qui, dans les écoles, ont triomphé à partir, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, à partir des années, je dirais, 1970. Hein. Donc, cet non-apprentissage de la richesse du silence et de ce qu'il pourrait permettre, par exemple, chez un enfant, le rêve, l'imaginaire, qui se trouve en quelque sorte encouragé par le silence, tout ça a été perdu volontairement par les pédagogues, il faut le dire. Je lisais ce matin un passage des propos d'Alain, qui est un de mes livres de chevet.
Les propos sur l'éducation.
Les propos.
Et alors?
Et alors, effectivement, il prédisait en quelque sorte ça, mais il est très attaché dans sa pédagogie à la richesse de l'apprentissage du silence par les enfants.
Alors, une pédagogue fait exception, et je voudrais la citer.
Montessori.
Maria Montessori.
Ben
exactement.
Voilà.
Exactement. Et je l'ai appris toujours en lisant le livre David Le Breton. Parce qu'elle est la première pédagogue à exercer les enfants au silence dans un contexte de plaisir. Elle entre un jour dans une classe en tenant un enfant de 4 ans dans les bras. Émue par sa tranquillité, elle s'adresse aux écoliers à peine plus âgés en leur montrant combien il est calme. Et elle ajoute en riant « Aucun de vous ne saurait être aussi silencieux ». Les enfants l'entourent, déconcertés. Poursuivant son jeu, elle leur fait observer combien l'enfant respire délicatement. « Aucun de vous ne saurait respirer comme lui sans faire de bruit », ajoute-t-elle, toujours en plaisantant. Mais les enfants retiennent leur souffle. Pour la première fois, le bruit de l'horloge se fait entendre dans la classe sans être recouvert par les bavardages. Nul ne bouge, les enfants, émerveillés par la situation, demandent à réaliser des exercices de silence. Quelques jours plus tard, Maria Montessori leur propose de les appeler à voix basse, l'enfant nommé devant alors se mouvoir en faisant le moins de bruit possible. Voilà quand même une leçon à méditer pour les pédagogues d'aujourd'hui.
Et il y a des travaux d'un Hollandais Verstraet qui est totalement consacré à cet apprentissage du silence. Ce n'est pas encore publié, mais vous voyez, à cet apprentissage du silence, c'est les enfants. Et il, évidemment, commente longuement les exercices de Montessori.
Jean-Michel de la Comté, vous, dans votre petit éloge des amoureux du silence, vous parlez de, vous l'avez dit d'ailleurs, de la souffrance du bruit, mais en même temps des difficultés terribles auxquelles se heurtent les gens lorsque confrontés à un bruit épouvantable de voisinage. Ils s'en plaignent. Vous donnez quelques exemples des magasins de motos qui ouvrent au pied d'un immeuble ou des boîtes, etc. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces exemples-là, parce que je les trouve absolument terribles. On est aux antipodes de Maria Montessori.
Oui, vous savez d'ailleurs. C'est ce petit livre que vous citez au départ. Je l'avais intitulé Le bruit barbare. Et ça a été refusé par l'éditeur de l'époque en disant « c'est un livre plaintif ». Ce qui m'a scandalisé. Parce que, quand je disais tout à l'heure, c'est une souffrance, j'ai reçu dans le cadre d'une association de lutte contre le bruit, des tas de lettres. Souvent d'ailleurs des vieilles gens, ou des gens isolés, ou des femmes seules. Aucun moyen de défense, aucun recours. Et qui vivent l'enfer. Le bruit, c'est l'enfer. Pour ceux qui ne le supportent pas, lorsque le bruit est une torture. Parce que ça existe. Alors c'est quand même tout à fait extraordinaire, je trouve, qu'on est une société bizarre quand même. Parce qu'on lutte, la société lutte, les pouvoirs publics notamment, contre la pollution par les gaz. Et c'est très bien, mais par les sons, il n'y a à peu près aucune lutte. À peu près aucune lutte. Sauf pour les aéroports, pour les routes, vous voyez, pour les... Bon. Mais au titre des individus, il y a peu de choses. Bon. Or, il s'agit d'une souffrance, mais qui peut être intenable, à rendre fou, à faire mourir. Et j'ai reçu des lettres dans ce sens-là.
Et oui, justement, les bruyants sont très irascibles. Et surtout, ce que vous montrez, justement, c'est qu'ils se sentent dans leur bon droit.
Mais bien sûr.
Ils exercent leur liberté, ils font ce qu'ils veulent. Et alors, vous dites, par exemple, vous parlez d'une femme désespérée, confrontée à une voisine alcoolique, oui, qui possédait 3 chiens. Elle subissait son tapage et les aboiements incessants des bêtes. Et cette voisine, lors d'une altercation, s'est épanchée en un torrent d'injures et de menaces, et parmi lesquelles, celle de maculer la façade de la maison de cette pauvre femme avec des excréments de chiens. Voilà, et vous citez aussi l'exemple d'une femme divorcée qui subit du bruit toutes les nuits, jusqu'à 4h ou 5h du matin, et elle se plaint poliment, et à ce moment-là, elle se fait insulter, et les gens, en quelque sorte, en rajoutent. Puisqu'elle se fait insulter, il y a plus de bruit encore.
Absolument.
C'est quand même une situation... Comment vous expliquez ça ?
Il y a un vrai sadisme, il y a l'exercice d'un droit qu'on s'attribue. On est dans son droit. D'ailleurs, soit dit en passant, moi j'en veux un petit peu au pouvoir public, du fait qu'il y a un rapport, je le dis très rapidement, un rapport sur le bruit qui est apparu il y a 2-3 ans, un rapport parlementaire, dont évidemment, qui est passé directement dans un placard, et qui propose de faire une sensibilisation par les pouvoirs publics au bruit, au droit des gens, au silence, ce qui n'a jamais été fait. Ce qui est terrible. Vous pouvez pas intervenir. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait du bruit, vous l'agressez. C'est-à-dire, c'est quand même fou quand même. C'est l'agresseur qui est agressé. Et les exemples que vous donnez, c'est exactement ça. Des gens qui se plaignent parce qu'ils souffrent abominablement se font renvoyer dans les cordes en disant « Mais nous avons le droit, nous sommes chez nous, on fait ce qu'on veut, je suis libre. »
Oui, il y a cependant des textes, sinon législatifs, du moins réglementaires, pour lutter contre le bruit. Il y a des ligues contre le bruit. Et puis il y a des lieux protégés, hôpital, silence, etc. Donc, faut peut-être un tout petit peu.
Là, je serais là. Non. Vous avez
mis. Non,
Alain Corbin, tu as fait raison. Il y a des textes, c'est vrai. Ils sont très peu appliqués.
Vous en citez un d'ailleurs.
Oui.
Le Code de santé publique. Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition, son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine, ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal sous sa responsabilité.
Absolument, c'est très clair.
Et alors, vous dites?
Que c'est pas respecté.
Et pourquoi?
Alors, on m'a dit que les maires notamment, où ça les ennuie parce que beaucoup de gens, ça ne les gêne pas. Et puis c'est des gros gnogneux qui n'aiment pas le bruit, souvent on dit. Enfin, il y a beaucoup, plus de la moitié de la population française, plus de la moitié qui en souffre, cela étant, mais ça dépend, il y a divers bruits. Donc c'est toujours...
Le silence est réac.
Ouais, le silence est réac, absolument, comme le latin.
Nous voilà bien. Une anecdote aussi, lorsque j'étais élève de 4e, j'avais un professeur de français latin qui n'aimait pas les bavardages. Et donc, il nous collait un exercice lorsque... nous étions pris en flagrant délit, il nous demandait de faire 5 lignes, 10 lignes, ou davantage, suivant la gravité du forfait, des silentio. Nous devions écrire en latin une petite, toute petite dissertation, des silentio. Et cet exercice ne me gênait pas parce que c'est, j'ai toujours trouvé une certaine poésie dans la gratuité absolue du thème latin. Mais je dis cela parce que cet exercice, évidemment, ne peut plus voir le jour aujourd'hui. Il n'aurait strictement aucun sens et c'est dommage parce que De Silentio en latin, il y aurait énormément à écrire, beaucoup plus qu'à l'époque où je devais subir ce genre de punition étrange. Vous disiez, Alain Corbin, que le silence n'avait pas forcément le même prix, ou en tout cas n'était pas valorisé de la même manière dans toutes les époques.
Et dans toutes les classes sociales.
Et dans toutes les classes sociales, mais dans toutes les époques. Ça veut dire, on n'aimait pas le silence pour les mêmes raisons au XVIIe siècle ou au XIXe siècle. Alors, est-ce que vous pouvez expliciter pour finir cette différence entre les amours du silence, en quelque sorte?
En ce qui concerne la différence entre le XVIIe et le XIXe, parce qu'on pourrait aussi parler de l'Antiquité, hein, du silencieux des Antiques, du dieu du silence dans l'Antiquité. Mais en ce qui concerne la différence entre le XVIIe et le XIXe, elle est très, très palpable dans la vie de Rancé de Chateaubriand, puisque il vient à la grande trappe de l'abbé de Rancé pour se confronter au silence religieux du XVIIe siècle, qui est un silence qui met en disponibilité l'âme pour l'écoute de Dieu. Et lui qui a subi, en quelque sorte, bien des événements de la Révolution, qui est un homme du sublime, Chateaubriand, c'est-à-dire du bruit des tempêtes, du bruit de l'immensité des forêts, de la mer, etc., on sent une gêne. Il ne réussit pas, il le comprend un peu, ce silence du XVIIe siècle. Mais il ne réussit pas à entrer dedans, de même qu'il ne réussit pas, nous dit-il, à rentrer dans le silence de l'Escurial, qui est aussi un monument de silence. Tous ceux qui l'ont visité l'ont éprouvé. Donc, parce que lui, romantique, eh bien, ce sera plutôt le silence de la nature.
Silence de la nature. Bah, écoutez, merci beaucoup, Alain Corbin. Merci, Jean-Michel de la Comté, pour ce voyage nostalgique au pays du silence. Je rappelle le titre de votre livre, Jean-Michel de la Comté, Petit éloge du silence. Il est publié chez Gallimard, dans la collection Folio. Alain Corbin, vous publiez chez Albin Michel, Histoire du silence, de la Renaissance à nos jours. Et je signale, Jean-Michel de la Comté, votre nouveau livre, Lettre de consolation à un ami écrivain, chez Robert Laffont. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est écoutable pour toujours. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde, à la technique aujourd'hui Manuel Couturier, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.